Bonjour mon père, vous êtes le père Étienne Renaud, le nouveau directeur des études du PISAI, ainsi que responsable des frères de la communauté qui y vivent. En quoi consiste votre mission exactement ?
Avant de parler de ma mission, peut-être il faudrait dire un petit mot du PISAI lui-même. Le PISAI, c'est une abréviation italienne pour Institut Pontifical d'Études Arabes et Islamiques. C'est un institut qui a pour mission de préparer les chrétiens, que ce soit des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, à la rencontre avec l'islam. Et cette préparation est assez longue, hein, parce que nous entendons faire une préparation en profondeur. Et pour faire une préparation sérieuse pour la rencontre avec l'islam, nous pensons qu'il est nécessaire de passer par le canal de la langue arabe. Langue arabe qui permet de découvrir le Coran dans la langue même où il a été révélé, et puis qui permet, je dirais, d'en goûter toute la poésie, alors que les traductions ne savent pas exactement en rendre compte. Donc pour nous, c'est important de passer par la langue arabe. Ce qui veut dire que notre formation est longue et difficile. Alors, ma fonction là-dedans, c'est évidemment de soutenir chaque étudiant, puisque je suis directeur des études, et en même temps d'animer l'esprit et, disons, l'ambiance spirituelle entre les frères de la communauté.
Cette communauté est composée de qui ? Vous parlez des frères ? Combien êtes-vous ?
Alors, nous sommes 8 en tout. Le noyau est évidemment des pères blancs, missionnaires d'Afrique, puisque, dans le principe, le PISAI, la gestion de cette institution, a été confiée depuis des années à la Société des missionnaires d'Afrique. Nous sommes donc 5 pères blancs et les autres appartiennent qui à la congrégation des pères comboniens. C'est le recteur de l'institut qui est un combonien. Un autre fait partie du diocèse de Verona. Un autre est de la communauté des Apostles of Jesus, une société du Kenya.
Et au niveau des étudiants, quel type de personnes s'intéressent à vos cours ? Qui a envie d'apprendre l'arabe à Rome ou viennent de différents pays pour mieux comprendre l'islam ?
Pour faire des études longues comme celles que nous proposons, il faut évidemment des gens qui puissent être soutenus financièrement par une institution, une congrégation religieuse. La majeure partie de nos étudiants sont donc des gens qui appartiennent à cette catégorie. Pour le moment, nous avons beaucoup d'Africains. Vous savez que l'islam est une question importante en Afrique et plusieurs Africains viennent se former chez nous. La première année, nous envoyons nos étudiants dans un autre institut qui s'appelle Dar Comboni et qui se trouve au Caire. Et après une année, les étudiants viennent chez nous pour encore 2 ans.
Et le PISAI propose aussi une bibliothèque, c'est un lieu de recherche, n'est-ce pas ?
Absolument. Le PISAI a une bibliothèque très impressionnante qui comporte plus de 30 000 volumes, sans compter toutes les revues. Nous avons au moins 800 revues. Et pas mal de chercheurs viennent pour consulter notre bibliothèque.
Le PISAI a été fondé il y a combien d'années en fait ? Quelle était la vocation à l'origine et comment est-ce qu'il a évolué ces dernières années ?
Alors c'est une longue histoire parce que au départ c'était une institution interne à ma congrégation, les Pères Blancs, et ça se trouvait en Tunisie. Ça portait le nom de Ibla. Peu à peu, nous avons ouvert à d'autres congrégations tout en restant en Afrique, encore en Tunisie. Et puis, avec l'indépendance, la nationalisation des terres, il a fallu transporter cette institution ailleurs. Et à ce moment-là, le pape Paul VI, c'était l'époque du Concile, nous a accueillis à Rome. Et depuis lors, c'est à Rome que le PISAI s'est développé. Un autre point important, c'est qu'au départ, c'était assez axé sur le Maghreb, l'enseignement en français. Nous avons dû nous ouvrir à l'islam dans l'ensemble de ses dimensions et en particulier ouvrir une section anglophone et accueillir beaucoup d'étudiants venant de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde.
Vous avez participé à plusieurs phases du PISAI puisque vous avez fait plusieurs allers-retours entre l'Afrique et Rome. Comment est-ce que vous avez vu l'institution évoluer ou quels sont vos nouveaux projets par rapport à un institut dont on a réellement besoin à l'heure actuelle ?
Nous avons vu effectivement, et vous avez raison, je suis venu à plusieurs reprises, d'abord comme étudiant, ensuite comme professeur, ensuite comme recteur, maintenant comme directeur des études. Tout cela avec, entre chaque phase, une période de plus ou moins 6 ans. Et j'ai vu le PISAI qui a pris, disons, un petit peu de stabilité et une plus grande assiette. Nous avons entre autres développé les publications. Le PISAI a 3 publications, une d'ordre tout à fait scientifique, qui s'appelle Islamo-Christiana, composée en français, en anglais et en arabe, et qui d'ailleurs commence à s'ouvrir aussi à la langue italienne. Ensuite, nous avons un autre instrument de travail qui s'appelle Études arabes, qui publie des textes arabes avec, en vis-à-vis, la traduction française sur des thèmes donnés. Et en dernier lieu, une troisième revue en anglais, cette fois, qui s'appelle Encounter, qui, elle, est plus une revue mensuelle sur l'actualité et qui donne, pour les gens qui sont sur le terrain, une sorte de culture sur ce qui se passe dans le monde arabo-musulman.
Donc nous avons parlé de votre mission actuelle, de celle que vous avez aussi exercée à un moment donné, et même plusieurs fois dans votre vie en lien avec le PISAI. Mais vous êtes d'abord un missionnaire en tant que Père Blanc.
Oui.
Vous avez un goût particulièrement porté sur l'Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos expériences, au moins sur la dernière en Afrique, qui est celle du Soudan ?
C'est exact. La dernière a été celle du Soudan, où j'ai passé quelques 3 ans et demi. Une expérience très intéressante, émouvante aussi, puisque, comme vous le savez, le Soudan passe par des phases très difficiles de son histoire. Il semble que les relations entre le Nord et le Sud et ce long conflit qui a fait tant de victimes soient en train de se calmer et un processus de paix a été mis en place. Par contre, le conflit du Darfour à l'ouest du pays continue de façon assez tragique.
Et vous, quand vous étiez au Soudan, quelle était votre mission, justement ? Une mission de paix, d'évangélisation, de rencontre avec les peuples locaux ?
Sur le fond, c'est toujours ça. Mais en fait, j'avais une mission relativement précise et je m'occupais d'un institut qui, d'une certaine façon, ressemble un tout petit peu au PISAI, avec de beaucoup plus modestes proportions. Et là, je dirais que notre mission était double. Nous aidions les gens du Sud, en particulier les jeunes prêtres, les séminaristes, avec la langue arabe, car beaucoup d'entre eux avaient fait leurs études en anglais au sud du pays. Ça, c'était le programme du matin. Et puis, le soir, nous donnions des cours d'arabe dialectal soudanais pour les volontaires en tout genre, en particulier ceux qui se rendaient au Darfour, que ce soit avec Médecins sans frontières, Action contre la faim, les volontaires de l'ONU, etc. Et là, nous avions aussi beaucoup de clients. En plus, je donnais un certain nombre de cours en ville, que ce soit en théologie ou en islamologie. Nous donnions également des conférences dans notre centre. Oh, j'ai beaucoup aimé mon séjour à Khartoum.
En quoi ça vous a marqué plus particulièrement par rapport aux autres missions que vous aviez eues en Afrique ?
Eh bien, la différence, je dirais, pour Khartoum, c'était la première fois que je me trouvais avec une église locale. Auparavant, j'avais fait de longs séjours en Tunisie et puis également à Zanzibar. J'étais dans une petite île où l'église locale était extrêmement faible, réduite à une toute petite communauté. En Tunisie, elle était composée seulement d'étrangers. Au Soudan, je me trouvais en face d'une jeune église dynamique, composée surtout de réfugiés du Sud qui se trouvaient vivre dans ces quartiers, ces immenses quartiers périphériques de Khartoum. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement attachant de prier avec eux et de communier avec toutes les espérances et les difficultés de cette jeune église.
Et une autre expérience qui vous a beaucoup marqué, c'est celle du Yémen. Vous étiez le premier prêtre envoyé dans ce pays, n'est-ce pas ?
Absolument. Ah oui, le Yémen, ça a été le temps des fiançailles pour moi. J'ai énormément aimé ce pays, mais c'était il y a déjà fort longtemps que je l'ai quitté. C'était en 72 que je suis arrivé. Effectivement, je suis arrivé avec ma petite valise. J'étais le premier prêtre. Et peu à peu, nous avons construit avec les étrangers qui se trouvaient là une petite communauté chrétienne et nous avons eu énormément de rapports avec les Yéménites dans ce pays qui s'éveillait seulement à la rencontre avec l'Occident. C'était une expérience passionnante.
Et quel sentiment peut-on avoir une fois qu'on a vécu dans ces pays un peu extraordinaires comme le Yémen, le Soudan et qu'on rentre en Europe?
J'avoue qu'on met un certain temps à se réhabituer. On est stupéfait de voir que les gens qui ont tout sous la main et qui vivent dans cette société de consommation et d'abondance peuvent encore être mécontents de ce qu'ils ont. Et je pense qu'on apprend dans ces pays-là à vivre simplement. Et on s'aperçoit que ce qui fait l'essentiel de la vie, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est la qualité des rencontres humaines. J'ai eu le privilège, pendant 8 ans, de vivre et de partager vraiment chaque jour, au quotidien, la vie d'une petite famille yéménite. Et je considère que c'est une des grandes grâces de ma vie. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant, à laquelle je suis resté très attaché.
Le père Étienne Renaud, le nouveau directeur de l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques de Rome, était interrogé par Aliane Rollier.